Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma à la une. Accalmie ce week-end sur toutes les lignes de front dans le Massissi, Niragongo et Rutshuru au nord Kivu. Cependant, trois bombes tombées hier au quartier Mayutsa à Sake ont tué trois personnes et un notable de Massissi lance un SOS en faveur de plusieurs déplacés en situation difficile dans ce territoire. 11 ans déjà depuis la signature de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs, mais cet accord n'a pas apporté de solution, il faut donc le révisiter, estime le coordonnateur de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, Maître Patient Bachombe est l'invité de ce journal. Et puis, Kasaï Oriental, confusion autour de la taxe dite de péage de stationnement. Pendant que la gouverneure intérimaire dit maintenir la mesure de suspension de cette taxe, la mairie de Mbujimayi l'instaure à nouveau. Le gouverneur intérimaire suggère un échange avec le maire à ce sujet, mais ce dernier refuse toute négociation. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Week-end calme sur toutes les lignes de front dans les territoires de Massissi, Niragongo et Rutshuru. Par ailleurs, certains habitants qui avaient eu le courage de revenir à la cité de Sake et qui disaient être rassurés par le message d'espoir des autorités provinciales ont de nouveau quitté la cité hier vendredi après la chute de trois bombes qui ont causé la mort de trois personnes, dont une mère et ses deux enfants dans le quartier Mayutsa. Au nord, dans les territoires de Niragongo et Rutshuru, la situation reste imprévisible au regard des positions qu'occupe chaque belligérant. Par ailleurs, plusieurs sites spontanés des déplacés fouillant le territoire de Massissi s'observent sur l'axe Mugunga-Lac, Vert et Nzulo. Nous sommes toujours au nord Kivu. Toutes les personnes qui y vivent sont sans assistance, traversent des conditions inhumaines et se retrouvent exposées aux intempéries. Alexis Baunga, notable de Massissi, revient sur leurs conditions de vie et appelle le gouvernement central à appuyer les autorités provinciale afin d'assister ces populations éparpillées dans des sites. Alexis Baunga, dans ses propos recueillis par Sifa Maguru.
À cause des affrontements qui s'observent ces derniers temps dans le territoire de Massissi, opposant les rebelles du M23 au gouvernement congolais, plusieurs de nos compatriotes ont été contraints de quitter leur maison. C'est le cas de nos compatriotes de Mweso, de nos compatriotes de Sake, Kirochi, Chacha et Borimana, et se réfugier vers des milliers de MPC qui risaient. Ce qui fait que de nouveaux cas viennent de réapparaître ou de voir le jour, c'est notamment le cas de Bohimba, le cas de Nzulo, et même le cas de Bulengo et de Lushagala venait d'être renforcé par l'arrivée massive de ces déplacés qui n'avaient pas où aller. Malheureusement, nous assistons à une situation pas normale, c'est que l'assistance n'est pas suffisante à ces déplacés, c'est vrai une assistance des humanitaires, mais nous attendons voir le gouvernement congolais apporter son assistance. Voilà pourquoi je demande au gouvernement central de Kinshasa de pouvoir apporter des solutions, de pouvoir mettre la main à la poche pour mettre des moyens à la disposition du gouverneur des provinces, d'assister, se déplacer.
Situation semblable dans le territoire de Beni, toujours au nord Kivu. Plus de 3000 ménages des déplacés vivent dans des conditions difficiles dans la commune rurale d'Oicha, située à 30 km de la ville de Beni. Ces familles, dont certaines sont hébergées dans des sites des déplacés et d'autres dans des écoles, avaient fui depuis plusieurs années l'insécurité dans certaines localités du territoire de Beni et de la province voisine de l'Ituri. Selon la présidente du comité local des déplacés, nombreux d'entre eux n'ont pas accès aux soins de santé primaires ni à la nourriture. Imela Kavira plaide pour une assistance en leur faveur. Elle est au micro de Grévis Salomo.
Aujourd'hui, ces déplacés qui sont ici à Oicha sont en train de beaucoup souffrir. Les uns n'ont pas encore où dormir, tandis que d'autres continuent à dormir dans des écoles. C'est pas grâce qu'ils vivent. Trouver à manger et même l'accès aux soins de santé demeure un casse-tête. Dans un site, 5 à 10 familles peuvent être entassées dans une seule habitation. Ces déplacés sont exposés à plusieurs maladies, faute de mauvaises conditions hygiéniques. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune idée sur le nombre précis de familles parce que nous continuons à les enregistrer chaque jour. Il y en a ceux qui sont dans des familles d'accueil alors que ces dernières prouvent aussi des difficultés, raison pour laquelle il y a toujours des conflits dans ces familles. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'assistance à part celle qu'apportent certains organismes, mais le besoin reste permanent. Que les autorités nous aident. Nous avons suffisamment souffert. Que les humanitaires nous viennent en aide.
Pendant ce temps, dans la province du Bazouélé, des éléments de la rébellion centrafricaine Séléka ont fait incursion cette semaine dans deux localités voisines dans le territoire d'Ango. C'était dans la nuit de mardi à mercredi de cette semaine. Ils ont pillé quelques animaux domestiques avant d'être chassés par des éléments des FARDC venus à la rescousse de la population. Le récit de Jacques Moukonkolé.
Ce sont au total 8 éléments de la rébellion centrafricaine Séléka qui ont fait irruption dans la localité de Banda. Selon la société civile locale, 3 rebelles se sont dirigés vers le camp d'Imbororo à la recherche de 2 personnes pour des motifs non élucidés. Informés, les soldats FRDC basés dans la contrée sont intervenus en tirant quelques coups de feu pour les dissuader. Ils ont été contraints de prendre la fuite. Dans la même soirée, rapporte la même source, 5 autres rebelles ont opéré dans un champ d'un paysan dénommé Dikpo, situé à 18 km de Banda. Ils ont soumis les propriétaires du champ à la torture avant de s'emparer de ces 10 bêtes, dont des chèvres et des moutons. L'administrateur du territoire d'Ango confirme les faits. Marcelin Lekaboussia affirme que les FRDC se sont lancés à leur poursuite. Jusqu'à présent, ces soldats loyalistes n'ont pas encore regagné la cité d'Ango. Cependant, le calme est revenu dans les localités visitées par ces assaillants après une nuit agitée. L'autorité territoriale plaide pour le renforcement des effectifs des militaires dans cette entité afin de sécuriser la population. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, l'auditorat supérieur près la cour militaire exige l'autopsie sur les 15 corps des civils tués à la fin de la semaine dernière par des miliciens Codeco à Talisingo, une trentaine de kilomètres au nord de Bunia, territoire de Djougou. Dans une communication hier, l'auditeur supérieur indique que cela permettra de déterminer les causes directes et indirectes de la mort de ces personnes. Cette décision explique le report à une date ultérieure des obsèques de ces civils tués. Des précisions avec Martial Kizabiamongo.
L'auditeur supérieur dit avoir ouvert une information judiciaire sur la mort tragique de ces 15 civils pour savoir les mobiles de cette tuerie et qui en sont les auteurs. Le colonel Joseph Makelele ajoute avoir sollicité l'assistance des médecins légistes de l'État appuyés par ceux de la MONUSCO pour effectuer l'autopsie des corps de toutes les victimes afin de déterminer si elles ont été tuées par balle, par étranglement avec un objet tranchant ou s'ils ont été enterrés vivants. C'est à la suite de ces rapports que les familles des victimes pourraient être autorisées à inhumer leurs proches. Cette mesure a conduit au report des obsèques et des 2 journées de deuil collectif prévues ce vendredi et samedi, annoncé dans un communiqué de la communauté intime. Pour rappel, il y a une semaine, un groupe de personnes qui revenaient d'un lieu de deuil vers Katuto a été kidnappé puis tué par 2 miliciens incontrôlés de la Codeco. Bougnard, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, le 11e anniversaire, ce 24 février, de la signature de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs. À cet effet, la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, DICODE, a organisé le jeudi à Kinshasa une matinée de réflexion sur le thème « Les défis et perspectives de l'accord cadre d'Addis Abeba, quelles solutions courageuses et durables pour le retour de la paix ?» Le coordonnateur de la DICODE RDC, maître Patient Bachombé, ainsi que d'autres intervenants ont préconisé la révisitation de cet accord qui, selon eux, n'a pas apporté de solution à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Le compte-rendu de Jean-Désiré Kanyama.
Un accord qui, selon les coordonnateurs de la DICODE, a été mis en épreuve avec une escalade des violences. Maître Patient Bachombé Matabishi.
La résurgence du M23 vient porter un coup dur à cet accord. On n'a pas honoré les engagements. Mais aussi, il y a eu des agendas cachés. On a piégé la République démocratique du Congo.
Ce qui nécessite sa révisitation pour l'efficacité de sa mise en œuvre, préconise Julien Paloukou, un des témoins de sa signature.
Et donc je milite en faveur de la révisitation de cet accord pour qu'on élague certains éléments qui relèvent de la politique nationale, mais qu'on y intègre seulement des éléments qui relèvent de la politique régionale et des obligations des uns et des autres, assortis des sanctions pour tous ceux qui violeraient l'accord.
La RDC a rempli une partie de ses engagements, notamment avec la création de plusieurs structures, parmi lesquelles les PDDRCS. Son coordonnateur est M. l'abbé Jean Bosco Bahala.
Et donc il faut identifier quel est le vrai problème. Nous devons identifier qui est notre vrai ennemi. Il faut une autre perspective. La solution, c'est la montée en puissance de l'armée. Il faut produire aussi un document de politique de sécurité pour le pays. La perspective que nous avons aujourd'hui, c'est de pouvoir convaincre les commanditaires de la guerre d'arrêter le soutien à ceux qui nous agressent.
Les représentants du mécanisme national de suivi, de la CRGL et du ministère du Plan ont planché chacun sur la revitalisation de cet accord.
Province du Maniema. La société civile Force Vive du Maniema n'a pas de leçon à donner à l'Assemblée provinciale pour son fonctionnement. C'est en substance la réaction de l'organe délibérant face à la dernière sortie médiatique de cette structure citoyenne accusant le bureau d'âge d'avoir validé les deux chefs coutumiers alors que le dossier en contestation contre ces chefs est encore pendant à la cour d'appel du Maniema. L'Assemblée provinciale ajoute que même les députés élus validés, leurs dossiers sont pendants à la cour d'appel du Maniema. On écoute le questeur faisant office du rapporteur du bureau provisoire, le député Théophile Bouléli, au micro de Florence Kiza.
L'Assemblée provinciale du Maniema a suivi avec indignation, par la voix des ondes, la sortie médiatique de M. Kamundala, président de la société civile Force Vive du Maniema, qui, suivant ses propos, s'attaque au fonctionnement de l'Assemblée provinciale en rapport avec la validation des pouvoirs des députés provinciaux élus et la cooptation des chefs coutumiers. À ce sujet, l'Assemblée provinciale du Maniema tient à fixer l'opinion sur ce qui suit. La sortie médiatique de M. Kamundala est fondée sur la méconnaissance et où les mépris de la Constitution, de la loi électorale, du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Maniema, ainsi que le fonctionnement des institutions dans notre pays. Pour enlever son ignorance, la procédure de vérification et validation des pouvoirs des députés élus et celle de la cooptation des députés chefs coutumiers se font indépendamment de la procédure de la contestation des résultats devant les juridictions compétentes, confère article 15 de la loi sur la libre administration des provinces, 152 de la loi électorale et 10 à 18 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Maniema.
Dans l'actualité aussi, la clôture hier de la formation des officiers de la police judiciaire de la ville de Beni. Au total, 15 policiers, dont 5 femmes, ont été formés sur le droit de protection de l'enfant pendant 5 jours. C'est le fruit du partenariat entre la police de la MONUSCO, UNPOL et la police nationale congolaise. Les participants promettent de mettre en application les leçons apprises au grand bénéfice de la communauté. Guylaine Kassassia, reportage.
Les apprenants attestent avoir acquis de nouvelles connaissances quant au respect du droit de l'enfant. Kavira Mahamba Sifa, officier de la police judiciaire spéciale de la protection de l'enfant et de la femme à Beni.
Je ne savais pas comment la femme peut être vulnérable. On tabassait les enfants, on croyait que c'est normal, mais aujourd'hui j'ai appris qu'il y a les fractions de coups et blessures volontaires sur la face si vous frappez la femme. Moi je croyais que c'est normal pour frapper son enfant, il n'y a pas de problème. Même à l'école, partout, nous allons pratiquer ça partout. Pour faire sa civilisation dans la communauté, à l'école, même en prison.
De son côté, Katembo Kasongia Didier, officier de la police judiciaire à Beni, dit avoir appris comment orienter les dossiers d'un enfant en conflit avec la loi.
De tout ce que nous avons acquis, bref, nous avons aussi comment opérer, prendre en considération la femme comme vulnérable d'abord, même s'il est coupable. Et comment opérer, orienter les dossiers d'un enfant devant ce juge naturel au tribunal pour enfants. Donc, pour dire que cet élément interdit d'incarcérer un enfant mineur ensemble avec le majeur. Ça, on a pris en considération.
Pour rappel, la police MONUSCO UNPOL a lancé lundi dernier une série de formations au profit de la police nationale congolaise, son partenaire. Beni Gulen Kassassia, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, au Kasaï oriental, une semaine après l'instauration de nouveau par la mairie de Mbujimayi de la taxe de péage et de stationnement, un malentendu tente de reprendre au risque de désorienter les contribuables à cette taxe. Dans une dépêche publiée jeudi, le porte-parole de la gouverneure intérimaire suggère au maire de la ville d'échanger avec l'autorité urbaine avant de faire payer à la population la taxe dite de péage de stationnement. Une proposition rejetée par le maire de Mbujimayi. Explication externe à la FINA.
Ce malentendu est d'abord constaté à travers la dépêche publiée jeudi dernier par le porte-parole de la gouverneure de province intérimaire. Dans cette dépêche, Patrice Kabemba Bin Kabemba a tenu à fixer l'opinion autour du maintien de la mesure de suspension par l'autorité provinciale de la taxe de péage perçue depuis une semaine par la mairie de Mbujimayi. Interrogé, Patrice Kabemba souhaite que le maire informe la gouverneure de province intérimaire avant d'instaurer de nouveau la taxe de péage et de stationnement.
Signaler le gouverneur des provinces justement pour harmoniser les points de vue parce qu'il apporte confusion à travers la ville de Mbujimayi.
Contacté, Jean-Marie Lutumba, maire de la ville, indique que son entité jouit de l'autonomie financière.
Je peux vous dire tout simplement que la ville, c'est une entité territoriale décentralisée qui jouit de l'autonomie de gestion, de la personnalité juridique. Elle a sa politique, ses stratégies pour fonctionner entre la ville et la province. J'insiste, je reviens, je confirme qu'il n'y a jamais eu un problème.
Signalons que la taxe de péage et de stationnement est fixée à 500 francs congolais. Elle doit être payée quotidiennement par les motocyclistes et les propriétaires des véhicules. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Province du Tanganyika, nous apprenons qu'un corps sans vie d'un enfant de 15 ans a été repêché hier vendredi du lac Tanganyika. Des témoins rapportent que la victime s'est baignée au bord du lac lorsqu'elle a été happée par un crocodile. Les mêmes sources indiquent que le drame est survenu vers le village Katenda, environ 7 km de Kabimba, chef-lieu du territoire de Kalemi, signalant qu'en une année, les crocodiles ont tué 7 personnes et blessé d'autres sur le lac Tanganyika dans le territoire de Kalemi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Sénégal. Le président Macky Sall a confirmé jeudi lors d'une allocution télévisée que son mandat prendra fin en avril comme prévu, mais sans préciser de nouvelles dates pour l'élection présidentielle qui était initialement prévue ce dimanche 25 février. Les opposants au report de la présidentielle et à la prolongation du mandat de Macky Sall sont restés sur leur faim, espérant une annonce claire de la part du président.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le coordonnateur de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et développement, DICOD. Maître Patient Bachombe recommande la révisitation de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs, accord qui, selon lui, n'a pas apporté des solutions à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC 11 ans après sa signature. Maître Patient Bachombe est avec Jean-Désiré Kanyama.
Maître Patient Bachombe Matabishi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Ce 11e anniversaire intervient avec la résurgence, ou mieux l'escalade de violence à l'est de la RDC. Est-ce une des raisons de l'échec de l'accord d'Addis Abeba?
On ne peut pas dire que l'accord d'Addis Abeba a échoué complètement, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de gaps et il y a beaucoup de ratés. Parce que quand vous regardez les engagements tels qu'ils ont été souscrits par les États, les engagements souscrits par l'État congolais ont été réalisés. Je ne saurais pas donner le pourcentage, mais vraiment, il y a des engagements qui ont été honorés.
Lesquels par exemple?
Par exemple, par rapport à la réforme du secteur de sécurité qui est en cours, la question de démocratisation, par exemple la question de la décentralisation qui est en cours mais qui n'est pas encore finalisée. Il y a plusieurs questions comme ça au niveau de la République, par exemple la mise en place du mécanisme national de suivi, la mise en place du programme PDDRSS, voilà, et les autres n'ont rien fait.
Alors la RDC a respecté ses engagements, vous venez de le dire, dans cet accord, mais si vous me passez le terme, il a été roulé par les partenaires, notamment les Rwandais.
Je pense qu'il y a eu mauvaise foi, il y a une sorte de ruse et les Congolais doivent en tirer les conséquences. Le Congo doit tirer les conséquences quand il signe des conventions ou des accords, surtout avec les pays des Grands Lacs. Donc il y a une sorte de ruse, une sorte de mensonge et de mauvaise foi. Et désormais, il nous faut aussi mieux comprendre l'interlocuteur, les pays qui nous entourent, pour bien échanger avec eux.
Est-ce qu'il y a un problème au niveau des signataires qui maîtrisent les questions? Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là?
Il faut dire oui. Des fois, on a un problème avec les négociateurs qui vont négocier des contrats, des accords. Souvent, ce ne sont pas les mêmes. Donc, il faut que la RDC mette en place un pool de négociateurs permanent, que ça ne soit pas momentané, non, un pool permanent. Il y a des experts, que ce soit au niveau de la société civile, au niveau étatique, au niveau de l'administration publique. Afrique. Il faudrait pas que lorsqu'on veut signer les accords, quelqu'un amène sa femme, quelqu'un amène son fils, quelqu'un amène sa copine. C'est ça qui tue aussi. On amène des gens qui n'ont pas le fil d'idées, le processus, comment ça a évolué. Donc il faut vraiment que la RDC soit à la hauteur et puisse mettre à profit les expertises qu'il a de manière permanente.
Alors une dizaine de résolutions et une dizaine d'accords également, y compris celui d'Addis Abeba, mais sans le retour de la paix à l'est de la RDC. Que faire ? Quoi faire pour y parvenir?
Mais c'est ça le contraste d'abord, parce que déjà la résurgence de M23 vient porter un coup dur à cet accord. Déjà, vous vous rappelez, il y a 11 ans, on a mis en place cet accord, on l'a signé, c'était encore après que le M23 ait pris une goma. Il y a quand même des questions à se poser. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et je pense que ce qui n'a pas été fait, c'est qu'on n'a pas honoré les engagements. C'est ça le vrai problème. Mais aussi, il y a eu des agendas cachés. Troisièmement, je peux dire qu'on a piégé la République démocratique du Congo du fait que les autres nations ne sont pas engagées directement, implicitement et avec la possibilité d'évaluer et de sanctionner au niveau régional et au niveau international. Et aussi, il faut le dire, les moyens n'ont pas suivi concrètement pour mettre en œuvre cet accord. Donc, il y a moyen aujourd'hui de revenir et d'apprécier, d'évaluer l'accord et de non seulement de revitaliser. En tout cas, il faut revisiter cet accord pour que l'on puisse imposer des actions qui amènent à une paix durable.
Alors, quel rôle joue la DICOD dans ce processus de retour de la paix en RDC, mais également dans la cohésion entre les communautés?
Nous essayons d'accompagner les communautés pour pouvoir renforcer les liens, promouvoir la solidarité entre communautés et pouvoir construire une cohésion là où elle est troublée. Surtout lutter contre les discours de haine au niveau régional et au niveau national. Nous essayons également de travailler pour faire un plaidoyer parce que nous venons de lancer d'ailleurs une campagne de plaidoyer avec les communautés et les acteurs de la société civile pour pouvoir faire entendre la voix des communautés au niveau national, au niveau régional et international. C'est très important parce que on est habitué à écouter les politiciens, les militaires s'exprimer pour les questions des conflits, mais les communautés qui subissent au quotidien ne s'expriment pas assez. Et je pense que ça sera une meilleure façon, une meilleure manière de pouvoir participer dans le retour de la paix. Il faut collaborer aussi avec les autres communautés des pays voisins, pourquoi pas même des communautés du Rwanda, pour leur dire que non, votre pays ne doit pas nous faire subir ce que nous subissons aujourd'hui.
Merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Le coordonnateur de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement d'ICOD répondait aux questions de Jean-Désiré Kanyama. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.